Il y en a qui collent leur oreille dans le creux d'un coquillage pour entendre la mer quand ils en sont loin. On peut aussi ouvrir un livre, comme celui de Jules Michelet, qui s'appelle « La mer » par exemple, et qui dans les années 1860 fut un immense succès. Écoutez plutôt, « L'océan est une voix ». Il parle aux astres lointains, répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, aux rivages, dialogue avec leurs échos, plaintif, menaçant tour à tour. Il gronde ou soupire, il s'adresse à l'homme surtout. Comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance, il en a la vivante éloquence. C'est la vie qui parle à la vie, les êtres qui par millions, milliards naissent de lui, ce sont ses paroles. Tout cela ensemble mêlé, c'est la grande voix de l'océan. Que dit-il ? Il dit la vie, la métamorphose éternelle. Il dit l'existence fluide. Il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre. Que dit-il ? Immortalité, une force indomptable de vie est au plus bas de la nature. Que dit-il ? Solidarité, acceptons le rapide échange qui dans l'individu existe entre ces éléments divers. Acceptons la loi supérieure qui unit les membres vivants d'un même corps. Humanité. C'est un texte qui a plus d'un siècle et demi, la mère de Michelet, et pourtant, tout y est.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que dit la mère, à mon invité d'aujourd'hui, cette mère qui sert de toile de fond à son nouveau seul en scène. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, actuellement au théâtre du Rond-Point, mais que vous avez peut-être vu, ou que vous verrez dans toute la France bientôt, un voyage d'écriture par la grâce de messages partagés avec le navigateur Thomas Coville lors de ses tentatives pour battre le record du tour du monde à la voile et en solitaire. Bonjour Jacques Gamblin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, qu'est-ce qu'elle vous murmure à vous? La mer.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce texte.
C'est beau, hein.
De Michelet. Mmh. Oh, magnifique. Pour démarrer ma journée, c'est parfait. Oui, le petit de tout dans le grand tout. Elle me murmure tellement d'histoires. C'est ma meilleure amie, en fait, la mer. Elle me chuchote, elle me porte. C'est ma meilleure amie parce qu'elle me porte.
Quand est-ce que vous avez compris, quand est-ce que vous avez pris conscience que c'était aussi un environnement fragile et pour la préservation duquel il fallait se battre, la mer?
Depuis toujours, en fait. Depuis je suis né au bordel. Bordel de la mer.
C'est beau.
Oui. Enfin, bon, voilà, je suis né sur... Et j'ai parcouru tellement en petite course à pied des milliers de kilomètres dans les dunes et sur le sable, et que j'ai compris très 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 vite que fallait y faire attention, bien sûr. Quand j'étais gamin, je me souviens, j'étais parti avec mon oncle qui était pêcheur, marin pêcheur, et à l'époque, je l'ai vu balancer la poubelle par-dessus bord. Ça se faisait couramment à l'époque. Et déjà, j'étais très choqué, j'étais tout jeune.
Vous avez écrit, je me souviens, il y a 3 ans, un texte très remarqué qui s'appelait « Mon climat ». Mmh. Et je me pose la question, de quel œil est-ce que vous regardez justement l'action du gouvernement sur les questions écologiques aujourd'hui ?
Je faisais une espèce d'inventaire justement ces derniers jours, et je me disais... Bon, je suis plus dans de la prime jeunesse, et donc j'ai vu défiler quelques présidents voilà, Giscard, Chirac, Mitterrand, Sarkozy, enfin, pardon de ne pas dire leur prénom, et Emmanuel Macron et François Hollande, et je me suis dit, il y en a pas un seul qui m'a fait rêver et qui a fait rêver la planète. Il y en a pas un seul pour qui on a eu tous l'impression, la sensation qu'il y avait la passion pour la Terre qui nous porte et qui porte les êtres humains qu'ils sont en train de gouverner et donc de prévoir pour eux l'avenir. Pas un.
C'est un constat terrible, Jacques Gamblin.
Oui, terrible. Bien sûr, c'est terrible.
Ça vous arrive?
Pas quelqu'un qui que ce soit... Que je sais pas qui emporte avec une voix tout le monde autour et qui dit maintenant c'est de ça dont il faut s'occuper et rien d'autre, et que tout découlera de cette occupation, de cette préoccupation.
Ça vous arrive avec Thomas Coville d'échanger sur des sujets comme ceci ?
Bien sûr, sans arrêt. On est avec Thomas, on échange sur tout. Mais aussi, évidemment, il a mis une fleur dans son jardin, une fleur qui capte des panneaux solaires, qui s'ouvre et qui suit le soleil, qui se ferme la nuit pour garder l'énergie, et puis qui s'ouvre avec le soleil et qui le suit dans sa course. Une grande fleur solaire.
Thomas Coville, il faut le rappeler, le navigateur qui, il y a 2 ans, battait le record du Tour du Monde à la voile en solitaire et qui se prépare actuellement pour la route du Rhum. Vous, par contre, Jacques Gamblin, vous restez à terre.
Je reste à terre, mais en même temps, j'aime ça aussi, depuis toujours.
Depuis quand vous naviguez ?
Depuis que quelques heures de plein air, on appelait ça comme ça, étaient inclus dans le planning des semaines au lycée. Donc on faisait des ronds dans l'eau dans le port de Granville avec les vents tournants et en plein hiver et évidemment une époque où les combinaisons n'existaient pas. Donc on mettait des pullovers en laine très chauds et qui, si on tombait à l'eau, faisaient du poids. Et donc par grand vent, c'était bien d'avoir du poids.
Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous êtes sur un bateau ?
Que tout est resté à terre, que la concentration est maximum pour la marche du bateau et que c'est le seul endroit où, d'un seul coup, au moment où je largue les amarres, ben, je les largue de toutes parts.
Écrire à Thomas Coville, alors, c'est peut-être, pendant ces traversées, une façon de renouer avec ses sensations ?
Oui, et puis c'est une façon de communiquer avec ce que je ne pourrais jamais faire, de communiquer avec mes peurs par procuration, de communiquer avec mes rêves par procuration. Lui, il dit qu'il n'est pas un héros, mais de fait, il l'est, parce que à partir du moment où quelqu'un fait des choses qui font rêver d'autres, il y a une forme d'héroïsme.
Et c'est vrai. Et c'est bien de parler de communication parce que ces mots que vous avez écrits accompagnent, portent, soutiennent Thomas Coville, on l'entend, et sont aussi quelque part une invitation au voyage, comme si l'écriture était toujours, pour vous, une invitation au voyage.
Toujours, parce que c'est certainement le plus beau cadeau qu'il m'ait été donné, je ne sais pas par qui, par moi-même maintenant en tout cas, d'écrire, parce que c'est l'endroit où tout peut arriver. C'est l'endroit où la liberté est totale. On peut vous enchaîner, on peut vous ficeler à une chaise, mais on ne pourra jamais vous empêcher de penser. Et penser, à un moment donné, c'est écrire. Et donc, je ne sais jamais ce qui va se passer quand je commence à écrire. Et je ne sais jamais où ça va aller. Et j'aime ce moment-là incroyable et solitaire où tout est possible, et où je peux ne rien me refuser.
Comment ça s'est imposé comme une nécessité, Jacques Gamblin ?
Ça s'est imposé au début par l'oral, parce que par l'improvisation, en fait. En fait, je me suis souvent dit que si j'avais pas été comédien et joué des personnages, je n'aurais peut-être jamais écrit. C'est vraiment le fait de jouer des personnages et de raconter des histoires d'autres qui m'ont donné envie d'avoir les miennes et d'avoir un personnage qui est à côté de moi, qui est ma valise, mon copain, enfin, et qui peut dire des tas de choses que moi-même je n'aurais pas l'idée de dire.
Et ça nous renvoie aux origines de la littérature quelque part.
Et puis l'écriture, c'est toujours un endroit. Au début, je me disais, je m'écris en colère. J'ai besoin de la colère, mais la colère, c'est pas, comment dire, l'urgence en fait. En fait, j'écris pour raconter. Pour tenter toujours de dire ce qui est impossible à dire. C'est ça pour moi écrire, c'est des sensations qui sont très fortes ou des émotions très fortes que je vais tenter de nommer, d'approcher par l'écriture. Et en sachant que je n'y arriverai jamais.
C'est ça qu'on partage, ce questionnement, cette quête impossible quand on est sur une scène de théâtre ?
Oui, on partage, c'est d'ailleurs ce que je dis, on ne peut pas raconter un voyage. Je m'adresse à lui, c'est ce qui t'arrive quand tu reviens à terre, n'est-ce pas ? C'est une autre solitude, celle de ne pouvoir raconter. Eh bien, cette fausse conversation est elle aussi un racontable. Nous fabriquons du secret.
Celle qui est inracontable dans cette émission, mon cher Jacques. Peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité égoïste près de ses sous, pique assiette par-dessus le marché. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 1er novembre?
Un naufrage spectaculaire. Un survivant sur une île perdue.
Robinson accoste en Pléiade, les célèbres aventures du héros de Daniel Defoe sont republiées aujourd'hui dans la prestigieuse collection Gallimard. En plus de réunir les péripéties du naufragé, l'ouvrage de 1040 pages propose de découvrir 150 gravures de l'artiste suisse François-Aimé Louis. Last but not least, le volume est accompagné d'un appareil critique entièrement revu et qui pour la première fois n'élude rien de la douloureuse question de l'esclavage inhérente au texte de 1719.
Dans le ventre de ce pays, sur la peau de ce pays, j'ai ton nom dans mes os et ta voix dans la mienne. J'ai ma main ouverte au monde pour mon pays.
Bloncourt toujours, le photographe franco-haïtien Gérald Bloncourt est mort le 29 octobre à Paris, il avait 92 ans. Militant humaniste, dissident, l'homme a notamment été l'un des leaders de la révolution des Cinq Glorieuses. Expulsé, protégé par Aimé Césaire, il entre ensuite au journal L'Humanité, où il devient le témoin du quotidien des ouvriers et des immigrés en France, notamment grâce à son travail sur les bidonvilles de l'Est parisien des années 60, qu'il immortalise de ses clichés au noir et blanc majestueux.
Où sont les poulards? J'ai faim! Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit!
La razzia de Mazzia, le chef marseillais de 42 ans, Alexandre Mazzia, a été couronné cuisinier de l'année par le Goemio, célèbre petit guide jaune et grand concurrent du Michelin. Autre héros du palmarès 2018, Jean-François Piège, du Grand Restaurant à Paris, et Christophe Bacquier, du Castellet, décroche une toque de plus et accède ainsi au club très fermé des chefs à 5 toques, qui ne compte que 21 membres au niveau suprême de la gastronomie française. À l'aise.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près.
Et puis la toile de Berger pour accompagner la sortie de Contretemps, son formidable deuxième album. Flavien Berger vient de mettre en ligne un site complètement psyché, totalement délirant, sous forme d'une chasse au trésor dans l'univers du compositeur. Le site labyrinthique propose à grand renfort de photos de cheesecake et d'animaux interstellaires de partir à la découverte de 48 morceaux et extraits sonores inédits puisés dans les archives du musicien. Have a good trip. Jacques Gamblin, invité de Boomerang ce matin pour Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Spectacle dans lequel, on l'a compris, vous suivez en temps réel la progression du navigateur Thomas Coville auquel vous écrivez. Et cette correspondance, elle vous laisse parfois des jours et des jours sans réponse. L'attente, Jacques Gamblin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel état est-ce que c'est?
C'est très désagréable en fait, l'attente. Mais là, je n'attendais rien. Cette attente-là n'était pas... Enfin, cette attente, elle était... Cette attente sans attente était peuplée d'inquiétude, en fait. Peut-être que c'est toujours ça, les attentes. D'inquiétude, oui. Parce que, évidemment, à la fois, j'avais l'adresse mail du bord... L'adresse mail du mort, j'ai failli dire, non? C'est bizarre.
Toussaint.
C'est demain?
Tout va bien.
L'adresse mail du bord, et qu'on est simplement cinq à avoir, donc c'était une immense confiance que Thomas m'a offerte. Mais évidemment, j'avais peur d'être intrusif, j'avais peur de dire des choses qui le troublent ou qui le... Et donc, elle était peuplée de cette inquiétude.
Il y a aussi cette idée, moi, que j'ai trouvée centrale dans le spectacle et dans le texte qui l'accompagne. C'est à quoi on s'expose quand on donne quelque chose à quelqu'un. Et je vous pose la question, parce que quelque part, c'est ce que vous ne cessez d'interroger, en fait, le don, partout.
Oui, Oui, parce que on se demande toujours on peut avoir envie de donner, mais toujours il y a cette question que je me pose parfois moi-même, j'ai envie de si on donne pour recevoir, on est sûr de se mettre dans la position de ne jamais recevoir autant que ce que l'on donne. Si on donne pour recevoir, et c'est toujours cette question que je me pose. Si je donne à un moment, si je donne, alors c'est pourquoi? Juste pour donner, comme ce proverbe soufi qui dit ce que tu donnes est à toi pour toujours. Et c'est difficile parce que souvent on se dit finalement, même dans l'inconscient, donner c'est attendre peut-être un merci, c'est attendre d'être aimé un peu plus, c'est attendre quelque chose derrière.
C'est risqué.
Et c'est nuisible. Et c'est évidemment risqué.
Rassurez-vous, je vais pas vous demander de vous mettre à nu. Ce matin, c'est pas du tout mon genre. Pas le genre de cette émission. Pas le jeudi à 9h40 et encore moins un jour de Toussaint. J'aimerais plutôt que vous nous lisiez un extrait de Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Un extrait que j'ai choisi. Et qui m'a mis la puce à l'oreille. En l'occurrence, on vous écoute?
J'ai la trouille, tu sais. Avant de jouer tous les jours. Et ça commence dès le matin. Je fais une sieste dans ma loge pour me calmer. Et j'aimerais me réveiller en scène. Direct, sans passer par cette minute qui précède la mise à feu, la minute des insectes, ceux de la tombée du soir que je tente de chasser par de grands mouvements respiratoires, les insectes de la peur qui me ramollissent les guiboles, quand la lumière inonde déjà le plateau qui n'attend plus que moi. C'est à cette seconde-là que je vais chercher le courage pour le sortir de ses gonds. C'est à cette seconde que j'arrache les montagnes de leur socle pour simplement faire le métier que j'ai choisi. Je déteste cette seconde. Je voudrais que tout ait commencé depuis toujours. En fait, je voudrais ne jouer que des spectacles en cours. Mais pourquoi chacun, dans notre métier, nous sommes-nous donné ce qu'il y a de plus difficile à faire? Personne ne nous a forcés, personne. Alors pourquoi? Parce qu'on aime les défis? Qu'on aime se faire mal? Ou bien a-t-on choisi de se faire mal pour se justifier d'être là? Tu sais, je voudrais ne plus m'en vouloir autant. Quand je rate, je ne veux plus me demander d'être parfait. Je ne veux plus croire que tout le monde me le demande. Non, personne ne me le demande. Personne. Juste moi. Et c'est trop. C'est une grande prétention pour un homme de se surévaluer. Et si, à partir d'aujourd'hui, nous appelions l'échec la victoire à l'envers?
Ça pourrait peut-être nous calmer, non?
Ah oui, j'ai oublié la dernière phrase.
Jacques Gobelin, est-ce qu'on cesse un jour d'avoir peur de l'échec, en vrai?
Malheureusement, j'en rêve, en fait. J'aimerais être apaisé. Je le dis dans le spectacle, je veux vieillir avec le sourire, c'est mon projet, mon pote, mon projet non violent. Et cet apaisement, il aurait cette conséquence, bien sûr. La peur de l'échec, c'est ce qui fait qu'un être humain est un être humain, sans doute. Sans doute qu'il y a quelques grands sages qui échappent.
Il y a des échecs qui, pour vous, ont été des victoires. Votre plus belle victoire à l'envers, tiens. Ça aurait été quoi?
Mais tous les échecs sont des victoires à l'envers, avec un peu de temps. Toutes les ruptures amoureuses, les ruptures d'amitié, Dieu sait s'il y en a eu et si elles ont été douloureuses, tous les échecs, quels qu'ils soient, il y a toujours un moment, parce que c'est toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive, sinon on est cuit, sinon c'est la faute à l'autre, sinon on est victime du pas de chance, et ça m'emmerde, ce mot malchance qui doit absolument et urgemment tomber du dictionnaire. Parce que, oui, on maîtrise pas tout ce qui nous arrive, tout n'est pas de notre faute. Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Dans votre métier, et vous le dites d'ailleurs dans le spectacle, pourquoi est-ce que vous avez choisi un métier dans lequel on s'expose constamment au risque de l'échec?
Alors pourquoi? Parce que la passion est venue en faisant, et puis voilà, je me suis trouvé à cet endroit-là sans l'avoir vraiment prévu, inventé, désiré, gamin. C'est les rencontres, c'est la disponibilité pour une rencontre, et puis la découverte de ce métier très tôt, à 18 ans et demi, et être immédiatement dans le milieu professionnel, et puis être là, et puis me dire mais je peux exprimer des choses, je peux être, je peux recycler mon fleur de peau.
Ouais.
J'ai la possibilité de raconter mon poil qui se dresse. C'est une chance incroyable.
Vous dites, on choisit de se faire mal pour se justifier d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la culpabilité qui nous habite, l'illégitimité. Moi, j'ai mis énormément de temps à me voir comme un écrivain aussi, parce que Parce que je sais pas, parce que je me sens, j'ai un gros complexe d'inculture, parce que j'ai pas de mémoire dont je retiens pas ce que je vois, parce que je n'aime pas les livres au fond. Enfin, je veux dire, je les aime. J'ai une maison sans livres pour moi est une maison inhabitée, sans âme. Mais néanmoins, j'ai du mal avec le livre. J'ai du mal avec tout ce qui avec les modes d'emploi. Non, mais enfin, voilà, j'ai pas, je me sens, tout ce qu'on n'apprend pas quand on est très jeune, c'est cuit. C'est difficile, parce que comme le temps perdu, ça se rattrape pas. Donc, moi, j'étais plus dehors quand j'étais gamin, plutôt que dans les bouquins, et l'école m'emmerdait, etc., etc. Du coup, il y a des tas de choses que j'ai ratées, quoi. Et toute cette culture dont on croit que les acteurs et les gens qui en fabriquent de la culture en sont pétris, moi non. Alors, donc, je me suis construit une autre culture avec laquelle je me débrouille très bien, mais j'ai toujours un peu honte comme ça quand on me parle de références, qu'on me parle avec des tas de références et tout ça, je sais jamais quoi en faire. Et j'ai donc je sais plus quelle était votre question.
Vous y avez bien répondu, en tout cas. Moi non plus. On va continuer à se sentir vivant ensemble parce que c'est le cas ce matin. Juste après une chanson de la mer, tiens. Dylan, When the Ship Comes In, 1964. Vous êtes sur France Inter avec Jacques Gamblin. Vous écoutez Boomerang, Largué, Les Amarres.
Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking, and the tide will sound and the waves will pound, and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path, and the seagulls will be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken, for the chains of the sea will have busted in the night and be buried out the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline, and the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching, and the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. With a sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming, but they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour that the ship comes in. And they'll raise their hands saying, we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered, and like Pharaoh's tribe they'll be drowned in the tide, and like Goliath they'll be conquered.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Avec son air constamment étonné, je m'attendais à un marin qui aurait débarqué après un tour du monde en 49 jours, avec ses grands yeux verts, ses écarquillés, ivre de soleil, de mer, d'embrun, ses cheveux poivre et sel, son visage en triangle, son profil de forban. On se dit qu'il, bon, il dirait pas non à un petit remontant, mais parce qu'il est fragile quand même ce matin. Et il s'est fait tout beau avec son costume noir et sa chemise blanche. Jacques Gamblin, invité de Boomerang, pour Je parle à un homme qui ne tient pas en place, ce qui place d'emblée d'ailleurs votre spectacle sous le signe du mouvement. Et d'ailleurs, s'il y a un homme qui ne tient pas en place, c'est bien vous. Je pense là, je vous ai vu en train de jouer quand vous lisiez tout à l'heure également ce texte. Je vous voyais bouger sans cesse. Et je pense à ce spectacle où vous vous mettez sans cesse à danser, Jacques. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en vous, dans votre corps, quand vous bougez?
Je pense que les... À la fois, c'est pareil, je ne me pense pas danseur, enfin bon, j'ai pas... Mais je pense que le mouvement, à un moment, il est le silence. Et je pense que j'écris aussi pour ces instants de silence. Pour le point, quoi. Pour ce qui suit le point, ou plutôt les trois points de suspension. En fait, la danse, pour moi, c'est les points de suspension. C'est le moment où on ne sait plus comment on va faire pour encore dire. Alors le corps peut prendre sa place. C'est comme continuer à respirer quand on n'a plus de souffle.
Alors après quel silence, après quelle angoisse, est-ce que vous l'avez découverte, la danse, Jacques Gamblin? La danse qui par ailleurs était omniprésente dans votre dernier spectacle, 1h23min14s7, où un danseur était présent sur scène.
Oui, je l'ai découverte, il y a toujours eu quand même du mouvement, même bon, le toucher de la hanche était un texte aussi qui ne parlait que de danse, même si c'était la danse de couple, enfin c'était toujours de la danse. Et puis ensuite, en effet, il y a eu des danseurs sur le plateau, et danseuses, et donc il fallait bien que je m'y colle, aussi, parce que la danse à aucun moment devait être illustrative, elle devait être juste une résonance des mots, une continuité comme je viens de le dire, et donc il fallait que ça se tuile, et donc il fallait que le danseur puisse jouer du théâtre, et puis que moi je puisse prolongé aussi avec la danse, donc oui. C'est là que je m'y suis mis, c'est grâce à eux aussi que je m'y suis mis,
et ça
grâce
dit...
à Bastien Lefebvre, entre autres, bien sûr.
Ça dit aussi quelque chose d'une conception du théâtre, dites-moi si je me trompe, un théâtre du corps, un théâtre où le corps est omniprésent, où ça commence par ça, presque.
Oui, c'est vrai, mais même au cinéma, c'est ma nature, c'est tout simplement. Et je pense que même quand on est filmé en gros plan, c'est tout le corps qui raconte ce qui se passe dans le visage. En fait, je conçois pas les choses autrement que de façon circulaire et entière et de haut en bas, et etc. J'aime pas séparer. Enfin, j'aime pas cette idée qu'il y a des gens qui pensent et des gens qui agissent ou des gens qui ont le corps et d'autres qui sont. Enfin, tout pense, même. Même le type qui bouge jamais de son cul de sa chaise de la journée, le corps est en pleine activité aussi, non?
Si. En fait, par quel chemin est-ce que vous êtes arrivé au théâtre? Vous qui venez d'une famille, vous l'avez un peu dit, qui n'était pas forcément versé dans les arts?
Pas du tout, non. Mes parents étaient quincaillers. Et puis aussi, par extension, des belles choses, cadeaux. J'ai été élevé dans des belles choses. Mmh. Et ma mère ne pouvait vendre... que ce qu'elle aimait. Et j'ai fait des salons avec elle où elle disait, mais ça, il faudrait que je le prenne parce que ça peut se vendre, mais je n'y arrive pas parce que je n'aime pas. Donc elle ne pouvait être... Voilà, comme vous dites tout à l'heure, vous recevez des invités, vous les choisissez, vous avez envie des invités que vous avez envie, quoi.
Oui, j'ai envie de les entendre.
Voilà, pour mieux parler avec eux.
Mais je me disais surtout comme vous, parce que quelque part, vous aussi, vous ne vendez que des choses que vous aimez, non?
Oui, que ça.
Vous avez poursuivi ce chemin maternel.
Oui, mais j'ai été élevé dans cette perspective-là qu'on ne peut jamais rien mieux vendre que ce qu'on aime.
Vous étiez un enfant, un adolescent amoureux, vous?
Ah oui, amoureux de tout. Épicurien de la vie, bien sûr. Amoureux tous les jours. Et puis surtout, on m'a offert cette chose incroyable et la plus belle, c'est l'énergie. parce que c'est bien d'avoir des envies, mais faut avoir l'énergie pour aller les chercher. Et j'ai cette chance. Et ça, c'est la plus belle des chances, l'énergie.
Alors on va allier amour et énergie et se quitter sur un texte de Bukowski que vous avez choisi, qui parle d'amour, évidemment. Il n'y a rien de tel quand même, un jeudi matin. Jacques Gamblin.
Il faudrait donner un autre nom au mot « amour ». Parce que ceux qui l'emploient ne devraient pas avoir le droit de le prononcer. L'amour a besoin de temps. Il avance pas à pas. Déclamé en slogan ou brandi à tort et à travers, ça ne peut pas marcher. Tu t'en rendras compte. C'est là la grande faillite du communisme. La théorie est bonne, mais il n'y a simplement pas assez d'êtres humains pour la mettre en œuvre. Les gens continuent de se chier dessus et de réclamer à tue-tête de la théorie, alors que n'importe où, à n'importe quel jour... Et à n'importe quel moment, la plus petite touche de bonté, comme une goutte de pluie, suffirait à tout changer.
Comme j'aime que cette émission se termine ainsi. Merci infiniment Jacques Gamblin d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 18 novembre à Paris, et que vous sillonnerez ensuite la France et même la Suisse en long, en large, en travers, de Vannes à Thonon-les-Bains, en passant par Dinan, Grand-Figeac ou Vevey. Je précise aussi que votre correspondance avec Thomas Coville est publiée aux éditions des Équateurs et que c'est une lecture lumineuse avec un souffle, un vrai. Alors bon vent, tout de suite les médias, Dorothée Barba, juste après ça. Mélissa Lavaux sur France Inter et c'est l'heure de Dorothée Barba. Les médias, l'instant M avec vous.
Bonjour Augustin, merci pour Bukowski et merci pour Gamblin.
Oh, bah ça me touche, moi, c'était une émission très émouvante.
En effet, à demain.
À demain.